Les murs de Vannes.
Et les vœux prononcés à Windsor furent tenus. Le 16 juillet de la même année 1338, Édouard III prenait la mer à Yarmouth, avec une flotte de 400 vaisseaux. Le lendemain, il débarquait à Anvers. La reine Philippa était du voyage et de nombreux chevaliers, pour imiter Gauthier de Mauny, avaient l'œil droit caché par un losange de drap rouge. Ce n'était pas encore le temps des batailles, mais celui des entrevues. À Coblence, le 5 septembre, Édouard rencontrait l'empereur d'Allemagne. Pour cette cérémonie, Louis de Bavière s'était composé un étrange costume, moitié empereur, moitié pape, dalmatique de pontife sur tunique de roi, et couronne à fleurons scintillant autour d'une tiare. D'une main, il tenait le sceptre, de l'autre, le globe surmonté de la croix. Ainsi s'affirmait-il comme le suzerain de la chrétienté entière. Du haut de son trône, il prononça la forfaiture de Philippe VI, reconnu Édouard comme roi de France, et lui remit la verge d'or qui le désignait comme vicaire impérial. C'était là encore une idée de Robert d'Artois qui s'était rappelé comment Charles de Valois, avant chacune de ses expéditions personnelles, prenait soin de se faire proclamer vicaire pontifical. Louis de Bavière jura de défendre pendant 7 ans les droits d'Édouard et tous les princes allemands venus avec l'empereur confirmèrent ce serment. Cependant, Jacob van Artevelde continuait d'appeler à la révolte les populations du comté de Flandre, d'où Louis de Nevers s'était enfui définitivement. Édouard III alla de ville en ville, tenant de grandes assemblées où il se faisait reconnaître roi de France. Il promettait de rattacher à la Flandre Douai, Lille, l'Artois même, afin de constituer de tous ces territoires aux intérêts communs une seule nation. L'Artois étant cité dans le grand projet, on devinait bien qui l'avait inspiré et en serait sous tutelle anglaise le bénéficiaire. En même temps, Édouard décidait d'augmenter les privilèges commerciaux des cités. Au lieu de réclamer des subsides, il accordait des subventions, et il scellait ses promesses d'un sceau où les armes d'Angleterre et de France étaient conjointement gravées. À Anvers, la reine Philippa donna le jour à son second fils, Lionel. Le pape Benoît XII multipliait vainement en Avignon ses efforts de paix. Il avait interdit la croisade pour empêcher la guerre franco-anglaise, et celle-ci maintenant n'était que trop certaine. Déjà, entre avant-garde anglaise et garnison française, se produisaient de grosses escarmouches, en Vermandois et en Thiérarche, auxquelles Philippe VI ripostait en envoyant des détachements en Guyenne et d'autres jusqu'en Écosse pour y fomenter la rébellion au nom du petit David Bruce. Édouard III faisait la navette entre la Flandre et Londres, engageant aux banques italiennes les joyaux de la couronne afin de subvenir à l'entretien de ses troupes comme aux exigences de ses nouveaux vassaux. Philippe VI, ayant levé l'ost, prit l'oriflamme à Saint-Denis et s'avança jusqu'au-delà de Saint-Quentin, puis, à une journée seulement d'atteindre les Anglais, il fit faire demi-tour à toute son armée et alla reporter l'oriflamme sur l'autel de Saint-Denis. Quelle pouvait être la raison de cette étrange dérobade de la part du roi tournoyeur? Chacun se le demandait. Philippe trouvait-il le temps trop mouillé pour engager le combat? Ou bien les prédictions funestes de son oncle Robert, l'astrologue, lui étaient-elles soudain revenues en tête? Il déclarait s'être décidé pour un autre projet. L'angoisse, en une nuit, lui avait fait échafauder un autre plan. Il allait conquérir le royaume d'Angleterre. Ce ne serait pas la première fois que les Français y prendraient pied. Un duc de Normandie, 3 siècles plus tôt, n'avait-il pas conquis la Bretagne grande? Eh bien lui, Philippe, paraîtrait sur ces mêmes rivages d'Hastings. Un duc de Normandie, son fils, serait à ses côtés. Chacun des deux rois ambitionnait donc de conquérir le royaume de l'autre. Mais l'entreprise exigeait d'abord la maîtrise de la mer. Édouard, ayant la plus grande partie de son armée sur le continent, Philippe résolut de le couper sur ses bases pour l'empêcher de ravitailler ses troupes ou de les renforcer. Il allait détruire la marine anglaise. Le 22 juin 1340, devant l'Écluse, dans le large estuaire qui sépare la Flandre de la Zélande, 200 navires s'avançaient parés des plus jolis noms, la Flamme de France flottant à leur grand mât. La Pèlerine, la Nef-Dieu, la Micolette, l'Amoureuse, la Faraude, la Sainte-Marie, Porte-Joie. Ces vaisseaux étaient montés par 20 000 marins et soldats, complétés de tout un corps d'arbalétriers. Mais on ne comptait guère parmi eux plus de 150 gentilshommes. La chevalerie française n'aimait pas la mer. Le capitaine Barbavera, qui commandait aux 50 galères génoises, louées par le roi de France, dit à l'amiral Béhuchet: « Monseigneur, voici le roi d'Angleterre et sa flotte qui viennent sur nous. Prenez la pleine mer avec tous vos navires, car si vous restez ici, enfermés comme vous l'êtes dans les grandes digues, les Anglais qui ont pour eux le vent, le soleil et la marée, vous serreront tant que vous ne saurez vous aider. » On aurait pu l'écouter. Il avait 30 ans d'expérience navale, et l'année précédente, pour le compte de la France, avait audacieusement brûlé et pillé Southampton. L'amiral Béhuchet, ancien maître des eaux et forêts royales, lui répondit fièrement « On y soit qui s'en ira d'ici !» Il fit ranger ses bâtiments sur 3 lignes. D'abord les marins de la Seine, puis les Picards et les Dieppois, enfin les gens de Caen et du Cotentin. Il ordonna de lier les navires entre eux par des câbles et y disposa les hommes comme sur des châteaux forts. Le roi Édouard, parti l'avant-veille de Londres, commandait une flotte sensiblement égale. Il ne possédait pas plus de combattants que les Français n'en avaient, mais sur les vaisseaux, il avait réparti 2000 gentilshommes, parmi lesquels Robert d'Artois, malgré le grand dégoût que celui-ci avait de naviguer. Dans cette flotte se trouvait également, gardée par 800 soldats, toute une nef de dames d'honneur pour le service de la reine Philippa. Au soir, la France avait dit adieu à la domination des mers. On ne s'était même pas aperçu de la chute du jour, tant les incendies des vaisseaux français fournissaient de lumière. Pêcheurs normands, picards et marins de la Seine s'étaient fait mettre en pièces par les archers d'Angleterre et par les flamands venus à la rescousse, sur leurs barques plates du fond de l'estuaire pour prendre à revers les châteaux forts à voile. Ce n'était que craquement de mâtures, cliquetis d'armes, hurlements d'égorgés. On se battait au glaive et à la hache parmi un champ d'épaves. Les survivants, qui cherchaient à échapper à la fin du massacre, plongeaient entre les cadavres, et l'on ne savait plus si l'on nageait dans l'eau ou dans le sang. Des centaines de mains coupées flottaient sur la mer. Le corps de l'amiral Béhuchet pendait à la vergue du navire d'Édouard. Depuis de longues heures, Barbavera avait pris le large avec ses galères génoises. Les Anglais étaient meurtris, mais triomphants. Leur plus grand désastre, la perte de la nef des dames, coulait au milieu de cris affreux. Des robes dérivaient parmi le grand charnier marin comme des oiseaux morts. Le jeune roi Édouard avait été blessé à la cuisse et le sang ruisselait sur sa botte de cuir blanc, mais les combats désormais se passeraient sur la terre de France.